Bonjour à toutes et à tous d'Idées de l'âtre sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte. Des histoires, des récits, des petits points de culture étonnants, ignorés, oubliés, qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes, et que je vous raconte en suivant un ordre alphabétique un peu aléatoire, je l'avoue, au gré de l'actualité ou tout simplement de mes envies. Aujourd'hui, J. J comme Jean, Jean Cajodel. Vous ne connaissez pas Jean Cajodel ? Alors, découvrez son histoire avec moi, rendez-vous compte. Aujourd'hui, une histoire venue de la nuit des temps et des hommes, donc. Une histoire que j'ai encore une fois entièrement imaginée et rédigée, ou peut-être une histoire que le vent m'a soufflée. Par exemple, un jour que je me promenais dans la forêt de Montmorency, du côté de Montlignon, de Saint-Leu, de Saint-Prix, à regarder ces arbres centenaires, ces étangs où viennent se poser des canards au col vert, des oies en partance pour des pays lointains, et ces chemins étroits et sinueux qui se perdent on ne sait où. Eh bien, j'ai l'impression que le vent me souffle, pour moi tout seul, des histoires qui sont peut-être vraies ou peut-être totalement inventées, mais qui ne nous oublient pas. Oui, ces arbres, ces étangs, ces chemins sont bien la mémoire du passé, un passé bien plus ancien que nous-mêmes et qui nous survivra bien longtemps. Alors, ces histoires, je les note, je les retiens, je vous les raconte. Par exemple, l'histoire de Jean Cajodel, un bûcheron solitaire qui vit seul il y a bien des siècles dans la forêt de Montmorency, quelque part entre Saint-Leu et Saint-Prix. Jean Cajodel qui, j'en suis sûr, a un jour croisé la route d'un autre Jean, Jean Massé, vous vous souvenez ? Le prêtre trop curieux, puni par son évêque, est chargé d'apporter les reliques de Saint-Prix jusqu'au village qui s'appelait, jusque-là, Thor. Mais si je vous ai raconté en deux fois d'ailleurs cette histoire lors de nos deux derniers rendez-vous compte disponibles en podcast. Revenons à notre Jean de ce jour, le bûcheron solitaire Jean Cajodel. Occupé à tailler des pieux et des treillis qu'il vendrait sur le marché. Mais bien entendu, je vais lui faire vivre à lui aussi des rencontres extraordinaires. Un sanglier reconnaissant, une statuette enchantée, des moines pas très catholiques, une vieille sorcière maléfique et une jolie fille monstrueuse, à moins que ce ne soit l'inverse. Des artistes menacés par le pouvoir royal. En un mot, tout ce qu'il faut pour qu'il connaisse des aventures stupéfiantes qui vont bouleverser sa vie paisible, rendez-vous compte. À l'époque où les seigneurs de Montmorency régnaient sur notre canton, vivait un bûcheron nommé Jean Cajodel. Jean Cajodel vivait seul dans la forêt de Saint-Leu. Il occupait ses journées à tailler des pieux, du treillage pour les vignes et des rames pour les haricots, les petits pois. Chaque semaine, Jean Cajodel descendait au village pour vendre tout ce qu'il avait réalisé. Moi, il s'ennuyait bien un peu tout seul dans la forêt, mais la vie est ainsi faite, n'est-ce pas ? Un jour, il rencontra un sanglier qui avait une défense cassée et qui souffrait beaucoup. Il le soigna, le nourrit et le protégea des chasseurs. Alors, le troisième jour, le sanglier lui dit
« Jean, tu m'as sauvé. » Et tu t'es montré généreux envers moi. Alors, pour te récompenser, je vais te confier un secret. Demain, devant la croix à Rogafos, un brigand tentera d'assassiner un voyageur pour lui dérober son argent. Aide-le.
L'animal n'en dit pas davantage. Il s'enfuit tout droit dans un fourré et Jean ne le revit plus. Tout en fabriquant une brouette, il se mit à réfléchir à ce que lui avait dit son nouvel ami. Mais à quoi cela lui servirait-il de savoir ce qui allait arriver ? Il aurait préféré que le sanglier lui indique comment trouver le trésor qu'on disait caché quelque part dans la forêt, tiens. Et alors, il finit par oublier ce qu'avait dit son ami, le sanglier. Le lendemain était justement le jour où il avait coutume de se rendre au village. Il remplit de bonheur sa brouette, neuve, avec trois pieux solides, qu'il espérait vendre un bon prix. Il descendit par les Gaudrons en direction du Clos Buisson. Il apercevait déjà la croix à Rogafos. Il n'était plus qu'à quelques mètres quand il entendit crier
« À l'aide ! À l'aide !»
Ça, c'était l'appel d'un homme désespéré qu'on cherche à égorger. Il lâcha aussitôt sa brouette et se précipita vers la croix d'où venait le cri. Il vit alors un brigand, visage masqué et vêtu d'une cape noire, en train d'assaillir un voyageur. Le bandit avait attrapé sa victime à la gorge. Mais il faut avouer que l'homme se défendait avec beaucoup d'énergie. Le bandit aperçut Jean qui observait la scène épouvanté.
« Hé toi, Manon, aide-moi à tuer ce vaurien de voyageur. Il est riche, nous partagerons sa bourse. »
Jean ne bougeait pas. L'autre homme s'adressa aussi à lui.
« Je t'en prie, aide-moi à me débarrasser de cet assassin. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que mon amitié. Ce qui est mieux que tout l'or du monde, non ?»
Lequel des deux aider ? Le sanglier avait bien prédit la scène, mais il ne lui avait pas dit s'il devrait aider le voleur ou le voyageur. Ah, à vrai dire, quelques bonnes pièces d'or arrangeraient bien ses affaires à Jean Cajodel. Il viendrait s'établir au village et ouvrirait une échoppe, le rêve de sa vie entière. Mais, sans savoir vraiment pourquoi, il prit parti pour le voyageur. Saisissant l'un des pieux dans sa brouette, il le lança sur le brigand, lui perçant le cœur d'un seul coup. Le voyageur, encore essoufflé de sa lutte, le serra dans ses bras.
« Ami, nous nous reverrons bientôt. »
Et il donna à son sauveur une feuille de papier joliment décorée d'une lettrine et de lignes écrites serrées. Perplexe, le bûcheron examina le curieux présent. Et quand il releva la tête, le voyageur avait disparu sur le chemin, aussi rapidement que le sanglier de la veille. Étonné, Jean reprit sa brouette et poursuivit sa route. Parvenu devant la croix Sainte-Marguerite, il s'arrêta, comme à chaque fois, et il s'assit au pied du calvaire. Il sortit de son panier en osier une tranche de pain, le lard et le vin qu'il avait emporté. Lentement, il mangea et se désaltéra. Puis, tout en réfléchissant à l'attaque dont il avait été le témoin, il tailla une bûchette de chêne qu'il avait trouvée dans sa brouette. D'ailleurs, la présence de ce morceau de bois l'étonnait un peu, car il n'encombrait jamais inutilement sa brouette. Pris par ses pensées, il ne réalisa même pas qu'il était en train de tailler avec son couteau une petite statuette de femme. C'est pourquoi il fut fort surpris d'entendre bientôt
« Jean, tu m'as donné la vie et tu t'es montré généreux avec moi en me faisant très belle. Aussi, pour te récompenser, je vais te confier un secret. Tout à l'heure, devant la croix Verdelet, un moine accusera un innocent d'avoir mis le feu à l'une des granges du domaine de La Chaumette. Aide-le. »
Jean regarda avec effarement la statuette. Mais celle-ci n'ajouta plus un mot. Le bûcheron reprit alors sa route. Parvenu au croisement de la ruelle de Pontoise et du chemin de Paris, Jean aperçut une épaisse fumée noire et des grandes flammes qui dépassaient en hauteur les murs du domaine de Chaumette. Et au loin, il entendait les cris des paysans qui tentaient d'éteindre l'incendie. Au milieu du carrefour, il trouva un attroupement de vilains. Au milieu de l'assemblée, un moine parlait très fort, en désignant d'un doigt accusateur un homme portant un curieux chapeau noir. Le visage de cet homme ne disait vraiment rien à Jean. C'était donc un étranger, car Jean connaissait tout le monde au village. Il remarqua, sortant à moitié de la poche de l'étranger, un objet comme il n'en avait jamais vu, un fin bâtonnet noir terminé par une touffe de poils de même longueur.
« Voilà le maudit bougre qui a mis le feu à la grange Chaumette. Je l'ai vu commettre son forfait. Il tentait de s'échapper, mais je l'ai retenu. Menons-le sur le champ au prévôt qui saura faire justice. »
Les paysans s'enflammèrent à leur tour à ce discours. Ils brandirent leurs fourches et leurs faux. Nul n'aurait songé mettre en doute la parole d'un moine. Cependant, l'accusé demeurait étrangement calme et silencieux. Lorsque les manants voulurent s'emparer de lui, il se dégagea avec une souplesse extraordinaire. Il bondit en direction de Jean. Aussitôt le moine s'écria
« Bûcheron, cloue-le sur place avec l'un de tes pieux. Tu seras fait citoyen d'honneur du village. »
Cette proposition illumina le cœur du bûcheron. Lui, Jean Cajodel, méprisé par tous, considéré comme une bête sauvage, lui serait honoré et respecté. Ah, quelle revanche sur le sort, non ? Il saisit alors l'un de ses pieux et le lança en direction du fugitif. Mais lui, si habile à la chasse et au tir à l'arc, manqua son coup de façon totalement inexplicable. Ce fut le moine qui reçut le projectile en plein cœur et qui fut cloué sur place. Sa mort provoqua la consternation de la populace qui, par superstition, y vit la main de Dieu. Les paysans se dispersèrent alors sans chercher davantage querelle à l'inconnu. Celui-ci serra dans ses bras son sauveur. « Ami, nous nous reverrons bientôt. » Et comme le sanglier et comme le voyageur, il disparut mystérieusement. Ébahi, Jean remarqua cependant sur la route le curieux bâtonnet terminé par les poils. L'étrange objet était assurément tombé de la poche du grand homme au chapeau noir. Alors, Jean le ramassa et après avoir repris sa brouette, il continua son chemin. Vous êtes toujours bien sur EDFM, nous poursuivons les aventures de Jean Cajodel, le bûcheron, sauveur involontaire de personnages étranges, menacés par la foule, qui n'aime pas du tout les étranges étrangers et qui les juge forcément coupables. Au lieu de bifurquer à droite, en direction de l'église où se tenait le marché, Jean prit à gauche pour se rendre au cimetière. C'est qu'il aimait bien la compagnie des défunts, voyez-vous. Mais il les trouvait silencieux et sans histoire, comme lui d'ailleurs, alors que les vivants, eh bien, ils venaient d'avoir deux exemples de leur violence. Et il avait besoin de retrouver sa sérénité avant de replonger dans l'agitation citadine pour le reste de la journée. Le cimetière était désert en ce milieu de matinée. Les hommes s'occupaient de leurs affaires, les femmes de leur cuisine. Il faisait chaud, le soleil donnait fort. Alors, Jean s'assit au bord d'une tombe qui était agréablement ombragée par un grand chêne. La tombe était ancienne. Le nom gravé dans la pierre était presque entièrement effacé. De toute façon, Jean ne savait pas lire alors. Des mousses et des herbes folles recouvraient la dalle. Sans savoir pourquoi, le bûcheron entreprit de nettoyer la sépulture avec son couteau. Quand la pierre fut nette et propre comme au premier jour, il cueillit des myosotis et des pâquerettes sauvages qui poussaient dans les allées. Il déposa le bouquet sur la dalle. Il entendit alors ces paroles.
« Jean, tu m'as rendu ma beauté et tu t'es montré généreux avec moi en m'offrant des fleurs. » Aussi, pour te récompenser, je vais te confier un secret. Dans une heure, à la Croix d'Onon, une belle jeune femme dénoncera une sorcière. Aide-la.
Jean sut que la tombe ne parlerait plus. Il se leva, saisit à nouveau sa brouette et s'éloigna. À la sortie du cimetière, il marcha 200 mètres environ en direction du sud. Là se trouvait la croix d'Onon. Il cacha sa brouette dans un fourré et grimpa dans un arbre. Toutes ses émotions l'avaient fatigué. Alors, il s'endormit. Moins d'une heure plus tard, il fut réveillé par des gémissements et par des pleurs. Du haut de sa branche, il aperçut un curieux spectacle. Deux gendarmes à cheval traînaient une horrible mégère attachée à la queue de leur monture. Ils étaient suivis par une jeune femme qui marchait à pied. Jean eut le souffle coupé en la voyant. C'était la plus jolie fille qu'il avait jamais vue. Son visage
resplendissait de beauté, de jeunesse et de bonheur. Elle ne marchait pas, elle dansait. Ses cheveux, longs jusqu'à ses pieds, flottaient dans le vent. De sa voix mélodieuse, comme le chant de l'alouette, elle chantait assez fort pour que Jean l'entende.
Qu'au bûcher la sorcière et le feu au derrière. Qu'au bûcher la sorcière et le feu au derrière. Et le feu au derrière.
La vieille, échevelée et déguenillée, se lamentait de plus belle. Jean la trouvait vraiment repoussante. Il se réjouissait du sort qui attendait cette magicienne, sans doute aussi malfaisante que laide.
Il faut contourner la forêt de Malcombe en suivant la route des crêtes et revenir par Montargis.
Pourquoi éviter la forêt ?
La forêt est hantée, vous le savez bien, messire. Personne n'ose traverser.
Balivern,
je ne veux point faire attendre ma promise.
On va rencontrer la sorcière de Malcombe.
Allez, cours devant la fripouille.
Elle peut transformer une armée en vomi de crapaud. On dit que si elle vous touche, les pustules vous jaillissent du corps. On perd ses cheveux et on pissoie de la boue. Elle peut maudire sur 7 générations. On va tous y mourir. On va tous y mourir.
Mais soudain, sans aucune raison, alors qu'il passait devant la croix de Nom, les chevaux se cabrèrent. Les gendarmes furent projetés violemment à terre et eurent le crâne fendu. Subitement libre, la sorcière se tourna vers la jeune femme, prête à se venger. Apercevant Jean dans son arme, celle-ci se mit à supplier.
« Étranger de l'arme, protège-moi et je deviendrai ta femme. » Étranger de l'âme, étranger, protège-moi, protège-moi, et je deviendrai, ta femme.
Jean n'hésita pas une seconde. Épouser cette beauté ferait de lui le plus heureux de tous les hommes. Aussi sauta-t-il agilement à terre et courut prendre le dernier pieu dans sa brouette. Déjà, la vieille avait sauté au cou de la belle jeune femme, la future femme de Jean Cajodel. Sa future femme qui commençait à perdre les couleurs de la vie. Alors, avec toute la force de son amour, le bûcheron visa la mégère. Hélas, le pieu, comme envoûté, dévia de sa trajectoire et vint se ficher en plein cœur de la belle. Celle-ci expira en poussant un cri épouvantable. Alors qu'il tombait à genoux en larmes, Jean fut alors le témoin d'une scène effroyable. Du corps de la belle surgit un monstre ailé au flanc recouvert d'écailles. Et la créature infernale cracha du feu en direction de Jean avant de se volatiliser à une vitesse stupéfiante. La vieille et laide femme adressa un signe de la main à Jean et lui dit
« Ami, nous nous reverrons bientôt. »
Et elle s'enfonça dans les fourrés sans se retourner. Le cœur brisé, Jean s'assit au pied de la croix. Son regard fut alors attiré par une plaque lisse et brillante, de forme circulaire. Il la ramassa et poussa une vive exclamation. La plaque reflétait le visage merveilleux de la jeune femme qu'il venait de tuer malencontreusement. C'était d'ailleurs assurément l'une des écailles qui recouvrait le corps du monstre ailé. Comme par magie, la plaque se mit à tourner très vite entre les doigts du bonhomme. Une musique charmante se fit entendre, suivie de peu par un chant si beau qu'il tira des larmes au malheureux Jean Cajodel. Effectivement, il venait de reconnaître la voix de sa bien-aimée. Et quand le prodige cessa, Jean rangea soigneusement l'écaille au fond de sa poche, en l'entoura de son mouchoir tout propre. Jean parvint ensuite au village, sans autre aventure. Arrivé à la Croix-Blanche, à quelques pas de la Grand-Place, notre homme eut la surprise de retrouver le voyageur qui l'avait sauvé l'innocent accusé par le moine et la vieille femme prétendument sorcière. Tous les trois, visiblement, l'attendaient. Jean abandonna sa brouette. Sans savoir pourquoi, il les suivit sans un mot. Ils marchèrent ainsi en silence, longtemps. Ils n'empruntèrent pas la grande rue en direction de l'église et du marché. Ils prirent tout simplement la direction de la forêt. Mais Jean, perdu dans ses pensées, ne répondit pas au bonjour qu'on lui adressait. Tous les quatre, ils marchèrent longtemps, longtemps. Jean fut heureux de revoir les bois où se déroulaient ses journées ordinaires. Ils passèrent devant sa cabane, mais il n'osa pas s'arrêter. Ils suivirent des chemins dans lesquels le bûcheron ne s'était jamais aventuré. Il parvint enfin à un étang aux rives couvertes de joncs et de hauts roseaux. Des canards sauvages et des oies en migration s'y désaltéraient. En bordure de l'étang, un délicat petit manoir se dressait dans le soleil. Son architecture fine et élégante provoqua l'admiration de l'homme des bois. Ah, rien à voir avec les bâtiments grossiers des alentours. Même le château du seigneur de Reuilly semblait en comparaison un édifice bien épais, bien sombre. Vous êtes toujours bien sur IDFM, nous poursuivons les aventures de Jean Cajodel, le bûcheron entouré par ses trois nouveaux et étranges amis qui le mènent jusqu'à un manoir inconnu au cœur de la forêt. Ces trois curieux guides invitèrent Jean à pénétrer avec eux à l'intérieur du castelet. Dans une vaste salle carrelée couverte de tentures, une énorme bûche flambait dans une cheminée dont la plaque noire représentait un dragon ailé à la langue de feu. Les trois personnages se présentèrent alors. Le voyageur déclara
« Je suis Joachim, poète et musicien. Vois-tu, j'ai dû m'exiler car je chantais trop la liberté et la paix et le roi voulut me faire pendre. Jean, rends-moi maintenant le feuillet que je t'ai donné. »
Jean retrouva dans sa poche le bout de papier que Joachim lui avait offert le matin même. D'une voix pleine de sonorités agréables et claires, le poète lut les lignes qui recouvraient le feuillet. Le bûcheron ne comprit pas tout, mais éprouva un bonheur intense en écoutant les mots inconnus s'aventurer dans son oreille et dans son cœur. L'homme au chapeau noir prit ensuite la parole. « Moi, je m'appelle Léonard. Je viens d'Italie. Vois-tu, je suis peintre et architecte. Mais j'ai failli être livré à la justice par ce moine que tu as tué, heureusement. Il était horriblement jaloux de moi, car le supérieur de l'abbaye de Meriel m'a passé commande de son portrait alors qu'il pensait, lui, être choisi. Jean, rends-moi donc le pinceau que tu as ramassé sur la route. » Jean sortit de sa poche le bâtonnet à touffe de poils et le rendit à son propriétaire. Léonard sembla heureux de le récupérer en aussi bon état. Et il le trempa dans quelques substances colorées contenues dans des coupelles en argile. Puis il se dirigea jusqu'à un trépied qui supportait une toile grise. Sous le regard médusé de Jean, l'artiste, d'une main sûre, entreprit de réaliser le portrait de son sauveur. Enfin, ce fut au tour de la femme.
Moi, je suis Cléa, danseuse et conteuse. Oui, je suis vieille et laide. Alors, pour cette raison, on me prend souvent pour une sorcière, mais mon corps est plus souple que l'anguille et ma langue plus enchanteresse que les rêves. Jean, donne-moi l'écaille que tu as ramassée en chemin.
Alors Jean tendit la plaque brillante. Le visage de sa bien-aimée lui souriait toujours. Et, comme la première fois, sous la croix d'Onon, l'écaille circulaire se mit à tourner, tourner, tourner d'elle-même à toute vitesse. La musique et le chant léger se firent entendre, et Cléa se mit à tournoyer sur elle-même avec une grâce et une agilité remarquables. Voyez-vous, Jean passa le reste de sa vie dans le Castelet. Régulièrement, les voyageurs étrangers rendaient visite à ses compagnons. Il ne sut jamais comment ils trouvaient leur chemin à travers les bois, mais grâce à eux, Jean et ses amis apprenaient les nouvelles du monde et s'émerveillaient de nouveaux poèmes, de nouveaux contes, de nouvelles peintures. Certes, Jean continua son métier de bûcheron, mais peu à peu, il apprit lui aussi la poésie, le dessin et le chant. Il vécut parfaitement heureux, sans argent, sans honneur. Il avait l'amitié, les mots, les couleurs et la musique. Cependant, il pensait souvent à la fille dragon qu'il avait tuée. Alors, les nuits de pleine lune, ses amis le laissaient aller seul, dans la forêt, retrouver sa bien-aimée. Comme tous les hommes, n'est-ce pas, Jean Cajodel avait aussi besoin d'un peu de sorcellerie. Ainsi s'achève notre rendez-vous conte consacré à l'histoire de Jean Cajodel. Une histoire venue de la nuit des temps, mais une histoire bien contemporaine, non ? N'est-il pas vrai que quelques rencontres hors du commun transforment parfois notre vie bien commune en une existence plus riche, plus sereine ? N'est-il pas vrai que le destin place parfois sur notre route des circonstances qui nous poussent à faire des choix déraisonnables ? Des choix qui nous écartent de la voie commune mais qui nous font devenir ce que nous pouvions devenir, ce que nous n'osions devenir. Ne sommes-nous pas tous, un jour ou l'autre, un Jean Cajodel, bûcheron devenu poète et artiste, un ange qui se transforme en dragon, un monstre qui se révèle protecteur et bienveillant? Je vous laisse une semaine pour y réfléchir. Cette histoire de Jean Cajodel, vous pouvez la retrouver dans mon recueil intitulé « Les contes de la forge » qui rassemble des légendes, des fabliaux, des nouvelles que m'ont inspiré la forêt de Montmorency, à quelques kilomètres à peine de nos studios, et les villages qui bordent cette forêt. Des histoires venues de la nuit des temps et des hommes, bien sûr, depuis le Moyen-Âge jusqu'au début du XXe siècle. Comme celle de la belle et étrange Oléane, la petite fille imaginaire de la reine Hortense, revenue à Saint-Leu-la-Forêt, accomplir son destin par ce train de reine qui transportait sa cargaison de cercueils parisiens. Une histoire, ma préférée assurément, une histoire que je vous ai racontée dans notre rendez-vous conte du 23 mars dernier, disponible bien sûr en podcast sur IDFM, et que je dédie évidemment à celle dont le prénom résonne toujours comme celui d'Oléane. Et puisque je vous parlais de Saint-Leu, eh bien, je vous donne rendez-vous également ce samedi 20 mai à 17h, salle des arts créatifs, en contrebas du marché, le marché de Saint-Leu naturellement, pour une conférence organisée par l'association Point de Suspension. Une conférence dont le titre est « Philosophie et photographie, regardez la pensée, pensez le regard ». Une conférence de Gilles Boudinet, professeur à l'université Lyon 2, auteur de travaux sur la philosophie de l'éducation et de la culture, l'esthétique, l'éducation artistique et musicale. Samedi 20 mai, 17h, salle des arts créatifs avec l'association Point de Suspension à Saint-Leu-la-Forêt. Voilà, il est justement temps de mettre des points de suspension à notre rendez-vous conte d'aujourd'hui. Une émission proposée, présentée, réalisée par Didier Delattre. À la semaine prochaine, même heure, même adresse. En attendant, voici Sur le terrain, l'émission qui laisse la parole aux Valdoisiens et qui présente tous les événements de notre département sur IDFM Radio, évidemment.